Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le grand rabbin de France, Raïm Korsia, qui publie un plaidoyer pour la République aux éditions Fayard.
Bonjour Raïm Korsia.
Bonjour.
Grand rabbin de France, membre de l'Institut et ancien aumônier des armées. Effectivement, vous publiez « Réinventer les horreurs » chez Fayard, qui est une défense de la République. Est-ce que c'est un cri d'alarme ?
C'est le constat qu'on perd des rêves, on perd des ambitions, des horizons, et que... En fait, la République, c'est quelque chose qu'on construit tous les jours. On ne peut pas considérer qu'on a bâti la République. Maintenant, on doit l'utiliser, la consommer. Il faut la construire en permanence. On a un texte de notre prière qui nous dit tous les jours que Dieu réinvente, reconstruit. Tous les jours, il renouvelle tous les jours la création du monde. Si Dieu le fait pour la création du monde, on devrait pouvoir le faire pour la République. Et à ne pas le faire, ou en tout cas à perdre cette quasi-obligation mystique, ce qu'on a retrouvé quand on a tous marché dans les rues de France en janvier 2015, le 11 janvier 2015.
Après les attentats.
Après les assassinats de Charlie Hebdo, de l'hypercacher, des policiers. On s'est dit, il faut qu'on retrouve quelque chose de notre envie de vivre ensemble, tous ensemble, c'est-à-dire de construire la société, c'est-à-dire de construire la République. Et donc, il faut réinventer les aurores, c'est-à-dire les espérances, mais donc ça, la République.
Mais ça, pardon, Raïm Korsia, c'est votre foi qui vous porte.
C'est aussi le fait que je sois citoyen, et un citoyen par nature est quelqu'un d'engagé. Un citoyen, c'est quelqu'un qui va à Valmy. Vous voyez, on a une grande question aujourd'hui. Est-ce que si demain matin on relançait la conscription, est-ce qu'on accepterait dans notre société de dire « Ok, je vais un an ».
Notre conscription, expliquez-nous.
C'est-à-dire si on disait « Demain matin, il faut aller défendre la patrie, je sais pas, les armes à la main, est-ce qu'on le ferait ?» C'est une question d'engagement. Est-ce qu'on n'est pas simplement
des consommateurs ? Mais vous y croyez à ça ? Vous pensez que c'est encore possible ?
Bien sûr. Non seulement, bien sûr, c'est consubstantiel au fait d'être citoyen français, c'est-à-dire engagé. On n'est pas consommateur, encore une fois, de ce que d'autres produisent. C'est pour ça que, par exemple, quand on parle de sécurité, la sécurité n'est pas que l'affaire de la police, c'est l'affaire de l'ensemble des citoyens. L'économie n'est pas que l'affaire d'entreprise, c'est l'affaire de l'ensemble des citoyens. Par chacun de nos actes, nous construisons une société.
D'accord, mais en même temps, vous décrivez une société de la méfiance, où le vote semble ne plus servir à rien, où ronronne le « c'était mieux avant ». Donc ça, ce sont les signes d'une République fragile.
Bon, ceci dit, tout ce qui est humain est fragile. Par nature, c'est la fragilité qui crée le lien avec les autres, puisque si je suis fragile, j'ai besoin des autres et j'ai besoin d'une main tendue. Mais oui, on s'est presque habitué en permanence à ce que les choses soient faites. À un moment, c'est à nous de les faire. Je vais vous donner un exemple simple, mais alors très trivial. Vous pouvez pas hurler sur, je sais pas moi, la propreté des rues. Si vous-même, quand vous avez mangé un bonbon, vous jetez le papier par terre. Or, c'est ce qu'on fait. Pas au niveau des bonbons. C'est ce qu'on fait. On se plaint d'une société que nous contribuons à déstabiliser.
Vous dites d'ailleurs, arrêtons de nous plaindre. Hein. Vous dites ça dans ce livre. Un peu comme le disait votre ami Jacques Chirac, il faut raison garder. Il faut arrêter de se plaindre tout le temps.
Ceci dit, si on se plaint, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand ce quelque chose ne va pas, le simple fait de se plaindre ne dit pas qu'on va améliorer les choses. Alors qu'on a des marges d'amélioration, chacun et chacune.
Mais vous comprenez le désespoir des gilets jaunes ?
Oui.
Dans le sens, pas d'espoir. Vous décrivez dans votre livre ceux qui se vivent comme effacés de la photo de notre société.
Oui. Je trouve qu'on
Donc on vit dans un système profondément inégalitaire aussi.
Tout système a tendance à faire qu'il y ait des gens qui se trouvent au-dessus, d'autres en dessous. Et l'idée, c'est pas de dire que tout le monde doit être au même niveau. Ça s'appelle le fascisme. L'idée, c'est que chacun, dans sa place, ait une marge de progression et une marge de construction. C'est l'exemple que je prends à la fin de mon livre sur ce qu'on attribue à Peggy, sur le fait qu'il voit trois personnes qui cassent des cailloux. Et il y en a un qui est écrasé par ce qu'il fait, l'autre qui se dit « j'ai pas trouvé mieux », et le troisième qui est tellement heureux parce qu'il dit « je casse pas un caillou, je construis une cathédrale ». Et le fait de savoir que ce qu'on fait là où on est, c'est participer à l'ensemble de notre système démocratique, à l'ensemble de notre système républicain, qui est une aspiration à élever chacun et chacune, c'est une forme de fierté. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut se satisfaire du sentiment de construire quelque chose. Il faut aussi qu'on soit entendu, reconnu. Et on a bien vu que cette crise des gilets jaunes, c'était une forme de cri d'alerte. Et malheureusement, elle a été polluée par des actions insupportables. Mais il y avait une réalité de l'attente, de la demande.
Raïm Korsia, grand rabbin de France, qu'est-ce que ça veut dire pour un juif, la République ?
C'est l'espérance. C'est la République, c'est-à-dire c'est la Révolution française qui a donné le statut plein et entier de citoyen aux Juifs, le 27 septembre 1791. Chaque fois que la République est fragile, comme c'était le cas, par exemple, pendant l'affaire Dreyfus, la situation des Juifs est compliquée, l'antisémitisme a visage ouvert.
La France est antisémite ?
Non. Non, mais quand la République tombe, comme en 1940, le statut des Juifs est catastrophique. Donc en fait, plus on renforce la République, plus on renforce le statut de chacun et chacune dans le pays, dont les Juifs. C'est ce qu'avait dit Manuel Valls dans une formule prophétique. Là, justement, devant l'hyper-cachère, la France sans les Juifs n'est plus la France. Ce qu'on pourrait décliner sur la France sans les catholiques n'est plus la France sans les musulmans n'est plus la France sans les protestants n'est plus la France sans les athées, sans les humanistes, sans les francs.
Mais vous comprenez les Juifs
toutes ces strates de la société.
Vous comprenez les Juifs qui considèrent qu'ils vivent dans une société antisémite. Vous comprenez les Juifs qui considèrent qu'ils vivent dans une société antisémite.
Non.
Les actes d'antisémitisme ont augmenté.
Les Juifs en France constatent que, malgré toute la volonté des pouvoirs publics, malgré toutes les actions menées, il y a une recrudescence des faits antisémites. Parce qu'il y a une libération de la parole, parce que la haine qui se déverse sur Internet est faite quasiment sans contrôle, et qu'il faut impérativement que, dans ce virus mutant, j'ose pas parler de virus en ce moment, même si c'est un peu la mode, mais dans ce virus mutant qu'est l'antisémitisme, il faut aussi muter les façons de lutter contre l'antisémitisme.
Et l'Europe, elle est antisémite. Vous avez vu récemment à Alost, en Belgique, un défilé du carnaval antisémite.
Pourquoi dire l'Europe est antisémite ?
On l'a vu. Non, c'est une question. On l'a vu en Espagne.
Il y a de l'antisémitisme. Je ne comprends pas les autorités belges qui n'interdisent pas cette représentation. C'est pas satirique, j'accepte l'humour, tout le monde accepte l'humour, mais qui reprend les poncifs antisémites les plus éculés, les plus visibles. Et il y a une forme d'obstination de ce carnaval qui a été rayée du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut rendre hommage à l'UNESCO, parce que sous l'impulsion de la directrice générale de l'UNESCO, on a retiré le label de l'UNESCO à ce carnaval. Mais je ne comprends pas que les autorités belges ne disent pas « Écoutez, amusez-vous autrement, il n'y a pas de souci. »
Est-ce que pour être républicain, il faut mettre en veilleuse les religions ?
Sûrement pas. Certains vont peut-être que je les mette en veilleuse.
Mais... On parle tellement de laïcité et on se dit mais la laïcité, c'est quoi ? C'est la neutralité religieuse ?
Non, pardon. La laïcité, c'est la neutralité de l'État et la liberté de pratique religieuse. Je devrais même dire, c'est la liberté de pratique religieuse et la neutralité de l'État. Et je pourrais rajouter un troisième élément, c'est tout ce que les religions peuvent apporter à l'ensemble de leurs concitoyens. Je peux prendre un exemple chez moi, mais quand on parle du secours catholique, vous croyez que quand on aide quelqu'un au secours catholique, on demande un certificat de baptême ? Sûrement pas. Donc on aide des citoyens. Donc la laïcité, par nature, c'est la présence de diverses religions qui arrivent à construire un espace où personne ne porte atteinte à l'autre.
Oui, mais on entend dire qu'il faut défendre la laïcité pour contrer le communautarisme ou ce que maintenant le président appelle le séparatisme.
Oui, il a raison d'ailleurs d'appeler ce phénomène le séparatisme, parce que le communautarisme, il y a une ambiguïté. Communauté, communautarisme, les mots sont trop proches. Mais la réalité, c'est que quand par exemple on se réunit en communauté...
Séparatisme, on parle bien de l'islam radical.
Oui. Mais oui, parce que quand on se réunit en communauté, dans une communauté juive, c'est-à-dire dans une synagogue par exemple, on récite la prière pour la République, que j'aurais dû mettre dans ce livre, mais s'il est réédité, si Dieu veut, s'il est réédité, je rajouterai la prière pour la République qu'on récite dans toutes nos synagogues, à chaque office. Une façon de dire, on se réunit par affinité élective, aurait dit Max Weber, affinité élective religieuse, c'est ouvert à tout le monde, et en même temps, dans cet espace, on prie pour l'ensemble de la communauté nationale, qui est la seule communauté qui nous construit.
Dans votre livre, vous écrivez « Aucune crèche, aucun morceau de tissu ne menace la République ».
Oui.
Vous êtes pour le port du voile ?
Non, je dis simplement, quand il y a des mamans qui portent un foulard, parce qu'on dit voile, c'est ambigu, quand des mamans musulmanes portent un foulard, et qu'elles veulent accompagner les sorties scolaires, je vous signale que sans ces mamans, il n'y a pas de sortie scolaire. Donc elles disent, je vais aider, je prends mon temps et j'accompagne mon enfant et en même temps les autres enfants. Et on vient leur poser des conditions, leur dire, c'est bon, ça va. Il n'y a pas de prosélytisme avec ça. Et en plus, avec un peu de chance, elles amènent des macroudes, des petits gâteaux. C'est formidable.
Pour le goûter.
Tout le monde est
heureux. Mais vous savez bien, Raïm Korsia,
faire les choses simples.
Qu'il est difficile de faire la différence entre le voile attribut religieux et le voile attribut politique.
Oui, c'est vrai que le voile est sorti de la sphère religieuse pour rentrer dans la sphère politique. Mais quand c'est une brave maman, les directrices d'école, elles connaissent les mamans. Elles savent lesquelles ont une empathie pour tous les autres, quand on s'occupe de tout le monde. Moi, je trouve que quand quelqu'un, un citoyen, une citoyenne en l'occurrence, vient et veut aider, c'est compliqué de lui mettre tellement de conditions qu'elle dit, bah, écoutez, débrouillez-vous sans moi.
Vous dites qu'à un moment, l'école a oublié de jouer son rôle. Hein. Je vous cite, a trop porté comme une obligation le fait de conserver une culture d'origine. Nous avons oublié l'impératif de transmettre à tous les nouveaux arrivants notre culture, de Voltaire à Hugo, de Rabelais à Baudelaire, etc. etc.
Bah, j'ai juste quelques semaines d'avance sur ce qu'a fait le président à Mulhouse, puisqu'il a demandé d'arrêter cet enseignement des langues d'origine. La nature de ceux qui arrivent, peu importe à combien de générations, c'est de maîtriser parfaitement tous les codes, la langue du pays dans lequel on se trouve, donc le français. Maintenant qu'on garde comme un avantage collatéral, ce que j'ai appelé un avantage collatéral dans mon livre, une langue d'origine, je le vois avec mes amis arméniens par exemple, je suis moi déçu quand des amis arméniens ne parlent pas arménien, quand des amis antillais ne parlent pas antillais, mais ils parlent tous français et ils se construisent dans l'identité portée par la culture française.
Chaim Karsia, une dernière chose, les épidémies de coronavirus, le réchauffement climatique,
là, au moins.
Colère divine.
Non, mais je vous dis, ce que j'ai entendu ce matin sur votre antenne, et ça m'a beaucoup touché, il n'y a pas un Pékin port d'Italie. Et j'ai trouvé que c'était très fort.
Ça, c'était une blague de grosse tête.
Oui, mais parce que c'est formidable. En France, on gagnera toujours parce qu'on a l'humour. Et parfois, vous voyez, dans la gestion des religions, on manque un peu d'humour. Et je trouve que, bien sûr, il faut se protéger, il faut mettre en place des politiques, mais on peut un peu rire de la vie.
Merci monsieur le grand rabbin de France, Chaim Karsia.
Vous venez de citer l'une des fake news de nos grosses têtes avec Laurent Ruquier, Chaim Karsia, qui publie Réinventer les aurores aux éditions Fayard, autrement dit Réinventer la République. Tous les Français sont concernés, vient de nous dire le grand rabbin de France. On se plaint d'une société que l'on ne cesse nous-mêmes de déstabiliser. Puis on notera aussi cette phrase. Pour un juif, la République, c'est l'espérance. Merci à tous les deux. On retrouve l'intégralité de cet entretien sur le site RT.